écoute Mistral 99.3 pour la fesse, donc la fabrique de l'ESS. Alors, dans un monde où les défis économiques et environnementaux se complexifient, l'économie sociale et solidaire se présente comme une alternative prometteuse. Elle incarne une vision de l'économie où l'humain et la planète priment sur le profit. Et quel meilleur symbole pour illustrer cette approche que le maracuja, ce fruit exotique vibrant et plein de vitalité. Le maracuja, ou fruit de la passion, n'est pas seulement une délicieuse gourmandise tropicale, il est aussi le reflet d'une économie qui se veut durable et équitable. Comme l'ESS, il pousse dans des environnements où la biodiversité est respectée et valorisée. Il nous rappelle l'importance de cultiver nos ressources avec soin et passion. À l'image du maracuja qui apporte une touche de fraîcheur et d'énergie, l'ESS insuffle un nouvel élan à nos sociétés, elle encourage l'innovation sociale, soutient l'inclusion et favorise la participation citoyenne. En misant sur des modèles économiques respectueux de l'environnement et des personnes, elle ouvre la voie à un développement harmonieux et durable. Le maracuja, avec sa diversité de saveurs et de ses origines lointaines, représente une ouverture sur le monde et une richesse multiculturelle. A l'inverse, Jean-Marie Le Pen a souvent été associé à des idées prônant le repli national et la préservation d'une identité culturelle homogène. Ce contraste met en lumière le débat entre ouverture et fermeture, diversité et uniformité, qui continue de façonner les discours politiques et sociaux aujourd'hui. Ensemble, cultivons cette passion fruitée pour bâtir un monde plus solidaire et responsable. L'économie sociale et solidaire est une voie vers un avenir où chacun peut s'épanouir et contribuer à un bien commun durable.
Et merci Pascal, Jeanne, et donc aujourd'hui c'est toi qui es interviewé dans ton émission. Oui. Alors pour démarrer cette émission, donc merci d'avoir répondu à notre appel de réaliser une émission avec toi. Donc tu es consultant en ESS comme beaucoup de tes invités.
Tout à fait.
Et donc on va aborder ton métier, tes missions, ta structure pour laquelle tu travailles et surtout pour parler de toi et si tu as fait tes devoirs, comme tu dis toujours, si tu nous as ramené trois musiques et je sais que tu l'as fait, qui rythmeront l'émission en marquant chaque partie. Donc, c'est la petite virgule. Pascal Jeanne, pour quelle structure travailles-tu ?
Eh ben, indirectement pour plein de structures, parce que justement, donc je suis consultant indépendant. Ça veut dire que techniquement, je suis micro-entrepreneur, je suis à mon compte, quoi. Et je travaille pour principalement des associations qui travaillent dans l'éducation populaire le plus souvent. Et sur les sujets de jeunesse et international, donc ça peut être des ONG, ça peut être des fédérations associatives comme la Ligue de l'enseignement, par exemple, ou les centres sociaux, ça peut être des collectifs d'associations, des collectifs d'ONG. Donc, l'année dernière, j'ai travaillé pour le réseau de la coopération belge, donc à Bruxelles, qui s'appelle 11-11-11. Qu'est-ce que ça peut être d'autre encore? Des fois, des toutes petites structures, hein, des associations dans le cadre de dispositifs locaux d'accompagnement, des DLA. Et c'est assez varié en termes territorial, plutôt sur Marseille, sur Paris ou sur Bruxelles.
Peux-tu nous présenter dans les grandes lignes les organisations avec qui tu travailles ?
Alors, en gros, c'est des associations qui ont des salariés, le plus souvent. Ça peut être variable, des fois c'est un, deux salariés, vraiment des toutes petites structures, ou des grosses structures où il y a des fois plus de 200 salariés. Elles ont un but social. Vraiment, c'est de l'action au niveau local ou international. Et en gros, ces structures, elles ont plutôt vocation à travailler sur les questions internationales, comme je l'ai dit, locales au niveau de la jeunesse, d'insertion professionnelle, ou sur les questions du réemploi, de l'économie circulaire. Et c'est des structures qui ont plutôt tendance à être sur des face-à-face pédagogiques, c'est-à-dire qui rencontrent du public. Et moi, en gros, ce que je vais faire avec elles, c'est de les accompagner sur tout l'arc de leur gestion de leur projet. Donc, ça peut être en amont pour créer des modèles économiques ou pour faire de la formation sur de la participation citoyenne. C'est un peu mon domaine de compétence. les méthodes d'intervention auprès du public, susciter de la participation, créer du débat. Donc, et après, sur l'après-projet, où on va être plus sur des évaluations, est-ce que ça a fonctionné. Donc voilà, donc c'est des structures qui proposent des projets qui sont financés souvent par la force publique, l'État, ou le département, ou les régions, ou les villes. Voilà.
Et alors, je suis le protocole, hein. Qu'est-ce qu'elles font concrètement, ces structures ?
Qu'est-ce qu'elles font concrètement ? Je vais vous donner des exemples, ça va être plus simple. Ouais. Alors, j'ai travaillé pour une ONG qui s'appelle le CCFD Terre Solidaire l'année dernière, qui est une ONG avec des associations qui sont partenaires dans des pays, en gros en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et ils soutiennent des associations dans ces pays. Et typiquement, je suis parti au Cameroun, travailler avec des associations qui sont financées par cette ONG française, où il n'y a pas d'expat, et en gros, c'est des associations qui, elles, là je parle des Camerounaises, agissent au niveau de leur pays, ils vont travailler sur l'agriculture, ils vont travailler sur la jeunesse, ils vont travailler sur les questions d'égalité femmes-hommes, voilà, plein de choses, et moi j'intervenais pour leur donner des méthodes sur comment susciter de la participation auprès de chez eux. Donc voilà, typiquement ils vont faire des choses comme ça, ou alors plus sur le côté local, je peux travailler avec des structures qui font, par exemple, j'ai travaillé pour une association à La Ciotat l'année dernière aussi, qui intervient au niveau de la ville et qui gère tout ce qui est périscolaire et extrascolaire, donc les centres de loisirs, les cantines, le centre, maintenant on dit plus centre de loisirs, on dit accueil de loisirs, donc les accueils de loisirs, et les colonies de vacances et tout ça, quoi. Donc voilà, principalement c'est ça, là, ce qu'elles font, quoi, on va dire, de le spectre sur lequel je suis principalement. Et puis petite modification de ce que je fais depuis pas longtemps, je commence à monter des projets perso où je travaille que pour moi, parce que ça me fait plaisir, et je suis mon propre produit, donc mise en abîme, il y a cette émission par exemple que je fais maintenant depuis un an et demi
ouais, peut-être, ouais.
Et bénévolement, parce que franchement ça me fait plaisir, et je suis très content de pouvoir faire ça, et ça me fait rencontrer du monde, et puis ça me permet de travailler, de rencontrer des acteurs du territoire. Et puis j'ai développé depuis un an un format qui s'appelle une conférence gesticulée, que j'ai réadapté sur une conférence théâtralisée sur les questions de virilité et de masculinité, et voilà, et on va dire que là je vais aller en devant du public pour aller proposer des choses de ce type-là, que ce soit l'émission d'aller chercher des acteurs, de rencontrer des acteurs et des actrices de l'ESS, ou alors la conférence théâtralisée qui s'appelle « L'imposture du mal alpha ».
Alors, est-ce qu'elle a eu lieu, ce spectacle ? Enfin, c'est un spectacle
Ouais, voilà, c'est un seul en scène, on va dire, mais je trouve ça un peu pompeux. Donc ouais, je l'ai faite l'année dernière à Lille, et puis je l'ai jouée à Digne. Mais je l'ai retravaillé depuis le mois de septembre en mise en scène pour avoir un truc de meilleure qualité, parce que je ne suis pas comédien quand même, donc moi je m'improvise sur une scène. Et l'idée c'est de faire la médiation, donc c'est plus justement là, je travaille pour des structures, là je vais aller les chercher, donc on vient me chercher moi pour faire des prestations. Là l'idée c'est que c'est moi, je propose quelque chose en allant chercher ces publics-là, et ça va être à peu près les mêmes publics que je fréquente, donc en centre social, en MJC, donc en maison des jeunes et de la culture, dans des associations, dans des lycées, et puis dans le milieu de l'entreprise aussi, pour travailler sur tout ce qui est responsabilité sociale et environnementale des entreprises, sur la question de l'égalité femmes-hommes, qui est un sujet, et notamment qu'on prend sur le prisme de c'est quoi être un homme aujourd'hui, comment on participe au fait qu'on est dans une société où c'est les hommes qui dominent les femmes. Voilà.
Donc c'est bien d'être investi sur ce sujet, Pascal.
Je ne sais pas, mais c'est fort intéressant.
Tu peux me redire le titre de ton one man, si on peut dire ça ?
On peut dire ça, c'est l'imposture du mal alpha.
Du mal alpha.
Tout à fait. Tout à fait. Et teasing, j'en reparlerai à la fin, mais il sera joué au Centre culturel de Digne-les-Bains, au Centre culturel de René Char, le 7 février prochain à 20h30. C'est 5 balles. Venez avec tous vos amis. Je pense que c'est chouette.
Ben oui.
Non, j'espère que c'est chouette.
Il y aura de la musique un peu
Il y aura de la musique. Il y aura de la musique. Il y a toujours de la musique.
Alors, on va continuer avec la présentation d'une des musiques choisies.
Alors, je pense que la première que je vous ai choisie, elle s'appelle America Latina. Elle est chantée par un groupe qui s'appelle Calle 13, qui est un groupe portoricain. Pourquoi ? J'ai vécu il y a 10 ans déjà, 2 ans en Amérique latine. Je suis parti travailler pour une ONG. Et c'est un voyage qui m'a totalement transporté. Et donc, je reste très, très, très proche de la culture latino. Et cette chanson, c'est un hymne à l'Amérique latine. Elle est vraiment merveilleuse. Je me disais que pour commencer la journée, c'était parfait.
Merci Pascal, on l'écoute.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar.
Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco me extrañé cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
revient donc à cette émission La Fabrique de l'économie sociale solidaire avec Pascal Jeanne. Alors, on a vu donc la présentation de cette musique. On va revenir sur le métier. Pouvez-vous nous donner l'intitulé, peux-tu nous donner l'intitulé de ton métier ?
Alors, quand je me présente, il y en a deux. On va dire que pour la communication, je dis que je suis consultant en économie sociale et solidaire. Voilà, c'est ce qu'il y a écrit sur mes espaces réseaux sociaux, voilà, mes cartes et tout ça. Après moi, mon vrai métier, quand je le présente, je dis que je suis éducateur populaire.
J'ai l'impression que ça parle plus, moi.
Ok, tant mieux. Mais non. Comment tu le comprends quand je suis éducateur populaire ?
Ben, on voit bien que c'est quelque chose de social, quoi, mais...
C'est vrai que j'aime bien moi cette présentation-là parce que c'est ce qui correspond le plus à mon parcours, c'est-à-dire qu'en gros, éducateur populaire, c'est je suis pas dans le système éducatif formel, donc je suis pas enseignant. Par contre, je participe à plein de dispositifs d'éducation en dehors de l'école, et donc le côté populaire, c'est sur le côté social effectivement, et donc c'est mon métier, il est calé sur accompagner des publics qui ont besoin. De bénéficier de certains appuis pour que leur vie soit meilleure. On va dire, tout simplement.
Quelle est ta mission principale ? Ou quelles sont tes missions principales ?
Alors, ce que je fais le plus en ce moment, c'est des évaluations de projets. Donc, on va dire que ça, d'un point de vue temps accordé à mon métier, c'est ce que je fais le plus. Après ma mission vraiment c'est je fais l'accompagnement, des fois on veut dire facilitateur, donc je facilite les choses, je sais pas comment je les facilite, mais en tout cas je sais pas ce que je facilite exactement, comment c'est en faisant des réunions, en écrivant des documents, en faisant des interviews, des entretiens pour recueillir un peu des impressions, et puis en faisant vraiment de la formation, donc discuter, être en face à face avec des gens qui ont besoin d'apprendre en fait, des méthodes ou des stratégies, et de faire de la mise en débat. Donc on va dire c'est ce que je, ouais, on va dire que c'est, principalement c'est ce que je fais, quoi.
Qui fait appel à toi ? C'est des particuliers ?
Non, c'est des associations. Des associations ou des cabinets de consultants aussi, parce que donc, des fois il y a des entreprises qui ne sont pas entreprises individuelles, qui ont des cheptels, on va dire, de consultants et qui font appel en fait à des gens pour faire des missions. Et moi je peux être sollicité dans ce cadre-là aussi. C'est un peu moite-moite en fait.
Qu'est-ce que tu détestes le plus dans ton travail, dans ton métier ?
Ce que je déteste le plus dans mon métier. C'est l'administratif, hein, franchement, ça me prend la tête. C'est-à-dire que tout le truc qu'il faut suivre autour des documents à faire, à l'URSSAF et tout ça. Après, je suis consultant depuis deux ans. Donc avant, j'ai travaillé en asso, et là j'avais beaucoup plus de poids administratif, et une des raisons pour laquelle aussi j'ai décidé de passer à mon compte, c'est que là j'en pouvais plus. J'en avais marre de remplir des dossiers de financement, de faire des rendez-vous pour avoir de l'argent pour des assos et tout ça. Ça me mettait une pression absolue et je pense que j'en pouvais plus. Là, pendant la chanson, on discutait. Ça fait 22 ans que je fais ce métier. Il y a des trucs, dans une phase où j'en ai un peu marre. Et c'est vrai que le poids administratif et financier, la gestion, même si c'est quelque chose que... En fait, je peux apprécier en fait, avoir des cas administratifs à gérer. Mais en gros, l'action en soi-même n'est pas hyper intéressante, donc c'est pas ce que j'aime le plus.
Est-ce que pour créer ton métier, tu t'es accompagné toi-même ou tu as cherché de l'aide ?
Je me suis fait accompagner. Quand j'ai arrêté mon ancien boulot, j'étais au chômage. Donc, le côté pratique d'être au chômage, c'est que tu as droit à des accompagnements. Donc, ça, c'était bien. Donc, ça m'a permis de prendre du recul, de formaliser mon projet. J'ai été aussi accompagné par la Fabrique à Digne.
La Fabrique à entreprendre.
Donc, à Dignapolis, là, gérée par le réseau d'initiatives. Et on va dire que voilà, ça m'a permis vraiment de formaliser mon projet. Et c'est un appui qui m'a vraiment bien aidé, quoi. C'était pour passer du salariat à l'entrepreneuriat en fait quand même, hein, donc même si je suis tout seul et que je suis mon propre produit, quoi. C'était quand même un sacré changement de modèle économique, de plein de choses, quoi.
Puisqu'on parle de la fabrique, à entreprendre, du réseau initiative, il y a eu le Koh-Lanta de l'entrepreneuriat par les jeunes l'année dernière. Tu étais jury ou
L'année dernière, j'étais jury, effectivement.
Voilà, d'accord.
Ouais, j'étais jury l'année dernière. Et là, je sais que c'était lundi.
Oui, je suis allée faire des interviews. C'est très sympa.
Ouais.
Et c'est vraiment super que des jeunes de l'IUT, en fait, se penchent sur comment redynamiser le centre-ville et trouvent des idées en une journée.
Oui, non, mais voilà. Mais typiquement,
c'est
voilà.
Un bel exercice.
Ce type d'exercice-là, c'est des choses que moi, je peux animer dans le cadre de mon métier, typiquement.
Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail ?
La formation. Parler devant des gens, c'est vraiment ce qui me, c'est ce que j'adore, quoi. Vraiment être là pour accueillir ce que les gens ils souhaitent déconstruire, donc les faire parler et puis vraiment essayer d'harmoniser les prises de parole, parce que moi on va dire que je suis un spécialiste de la méthode et que pour moi la méthode est extrêmement importante, c'est-à-dire que quand on est dans un groupe, dans une association par exemple, il y a tout le temps des profils qui sont récurrents. Il y en a qui vont tout le temps parler, il y en a qui vont jamais parler, il y en a qui vont tout le temps parler parce qu'ils ont les codes, qu'ils soient économiques ou sociales. Puis il y en a justement, ils les ont pas. Et moi, ce que j'adore faire, c'est de créer des cadres où les deux profils arrivent à interagir et à parler de manière intelligible et constructive, dans le sens, ça veut dire ils s'écoutent quand ils parlent. Ça, vraiment, c'est ce que je préfère faire. Puis là, dernièrement, le fait de faire des projets plus perso, c'est quelque chose qui m'allume de plus en plus, et typiquement la conférence théâtralisée, c'est génial parce que je suis en train de passer sur un autre format où là je parle d'une conférence théâtralisée. En gros, c'est une mise en scène entre des anecdotes de ma propre vie et que je mixe ça avec des références sociologiques ou anthropologiques, historiques, philosophiques, à partir de bouquins, d'essais que j'ai lus ou des études. Et je viens mixer ça en faisant une mise en scène. Et je pense que le fait de faire de la formation, d'avoir eu l'habitude d'être en face à face avec du public, ça me détend sur le fait d'être sur une scène et de parler devant des gens. Après, là, je passe à un niveau au-dessus où, franchement, je sors totalement de ma zone de confort. Et ça me plaît. Et je suis en appétit sur ça en me disant, ouais, c'est peut-être une nouvelle phase là, de mon métier que je vais découvrir. Et en tout cas. Écrire cette conférence, faire des répétitions, ça me plaît de plus en plus.
C'est vraiment de la créativité.
Ouais, carrément. Là,
libre expression.
Voilà, sans m'enflammer, je veux dire, je le redis, je suis pas comédien, ma mise en scène elle est très modeste, mais il y en a une en tout cas qui j'espère va servir le propos. L'idée c'est de déconstruire les questions de virilité et de masculinité, donc c'est tout un programme quand même. Je pense que ce que je vais dire va faire plaisir à certaines personnes, mais c'est pas grave.
Il faut être nuancé, j'imagine qu'il y a beaucoup de... on peut pas mettre tous les œufs dans le même panier.
Est-ce qu'il faut être nuancé? Alors, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'il faut être nuancé? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il faille être nuancier. Policier, oui, ça c'est important. C'est-à-dire, on fait attention à ce qu'on dit, on évite des grossièretés, par exemple, sur des trucs de ce type-là. Ça ne sert pas le propos. Par contre, moi, je pense qu'il faut pas y aller avec le dos de la cuillère sur un sujet comme ça. À un moment, moi, c'est mon parti pris. Faut dire les choses, quoi. On est dans une société où les hommes dominent les femmes. Point à la ligne. C'est tout. Faut l'accepter. C'est comme ça. Comme on est dans une société où les blancs dominent les racisés. C'est pas un débat. C'est comme ça. Et donc, maintenant, comment on réagit vis-à-vis de ces problèmes-là, qui sont des problèmes systémiques? C'est-à-dire que c'est la faute de personne particulièrement, c'est la faute de tout le monde. Par contre, quand je dis c'est systémique, c'est ça. C'est on a une façon d'interagir entre nous qui font que, quand on est un homme, on va gagner plus d'argent qu'une femme au même niveau de compétence. 14% de plus quand même dans le secteur privé. Pourquoi ? Justement, il faut se poser la question. Pourquoi on en est là ? Qu'est-ce qui fait qu'entre une femme et un homme qui ont le même diplôme, qui font le même métier, dans le secteur privé, l'homme va gagner 14% de plus qu'une femme. Donc, en ça, dans cette proposition, j'apporte pas de nuance, par contre. Je pose un cadre. Après, c'est pour ça que je dis, je pense qu'il y a des gens qui ne seront pas forcément en accord avec ce que je dis, mais justement, place au débat, d'ailleurs, on va en discuter.
Donc, ça va être passionnant, et on aura l'occasion, donc, on y revient, mais le 7 février, par contre, on en saura plus sur ce sujet délicat et tellement d'actualité.
Tout à fait.
Qu'est-ce pour toi une journée type ?
Alors, je me lève. Quand j'ai mes enfants, je les prépare pour aller à l'école. Quand j'ai pas mes enfants, je me lève. Je ne me prépare pas, je prends mon temps. Et en gros, on va dire que ma journée commence à partir de 9h. Je prends un petit café et en gros, je regarde mes mails, principalement. C'est dur de sortir une journée type, mais j'essaye de... Alors, c'est facile, hein, c'est moi qui ai fait le conducteur, donc j'essaie de me plier à mon propre
exercice. Voilà, parce que pour l'instant, on n'en est qu'au café. Hein, voilà. Alors,
donc, je regarde mes mails et après, bah, j'ai toute une phase soit d'écriture où j'écris des rapports, soit de rendez-vous pour aller rencontrer les acteurs. Mais en gros, ma journée type, c'est beaucoup, 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 beaucoup derrière mon ordinateur à écrire ou à écouter des choses. Franchement, c'est ce que je fais vraiment le plus. Et de temps en temps, je vous dis, j'ai des réunions où... des interventions où je suis en face du public, ce que je préfère le plus. On va dire que ponctuellement, maintenant, des face-à-face publics, j'en fais peut-être deux par mois, même pas plus. Ça me manque. Ça me manque, j'avoue. Mais en gros, ma journée, c'est un peu ça.
Merci, Pascal. On a Aaron avec nous, un stagiaire à Fréquence Mistral, qui peut-être aimerait poser une ou deux questions rapidement.
Bonjour. Est-ce que vous pouvez intervenir ? J'aurais quelques petites questions.
Dis-moi.
Vous parlez de ton métier ?
Ouais.
Mais c'est quoi le but premier de ton métier ?
Le but premier de mon métier ?
Oui.
Alors, le but premier de mon métier, c'est d'accompagner des projets qui sont menés par des associations, principalement. Ces associations, elles mettent en place des projets à vocation sociale, donc pour aider les gens. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des bénéficiaires. Donc, le but de mon métier, on va dire, c'est d'aider les gens, des associations qui vont aider d'autres personnes. Voilà. Donc, je pense que je ne peux pas le dire. Enfin, je ne pourrais pas dire plus simplement.
D'accord. Comment t'as fait pour trouver cette voie ?
Comment j'ai fait pour trouver cette voie ? Bah en gros, moi, j'ai commencé dans l'animation. Je fais du centre de loisirs, beaucoup. Et en gros, on va dire que je suis parti sur la partie éducative, ce qui m'a le plus fait kiffer, mais pour de vrai, la pédagogie, comment tu rassembles les gens, qu'est-ce que tu fais avec des enfants, beaucoup avec des enfants au début. Et puis par ricochet, en fait, je suis rentré dans le milieu des ONG par l'aspect éducatif, en fait. Et en fait, au fur et à mesure d'expérience professionnelle, bah, tu prends en compétences et puis tu t'élargis, on va dire, l'éventail de ce que tu sais faire. Et puis tu commences à faire de la gestion et puis donc tu commences à pouvoir gérer des associations. Donc j'ai fait ça, je suis passé en fait d'association en association avec différents types de postes jusqu'à de la direction de structure. J'ai été directeur d'une ressourcerie à Paris pendant 2 ans. Et en gros, voilà, c'est tout ça un peu qui m'a construit, qui me fait arriver jusque là aujourd'hui. Et voilà, être maintenant sur un truc où je suis tout seul et je pars sur, comme tu le disais Odile, des trucs plus créatifs, notamment la conf.
Voilà. D'accord. J'aurais une autre question, mais celle-ci, on va dire que je ne sais pas comment trop la poser.
Vas-y, tente.
Est-ce que tu as déjà eu des cas de figure où c'est que l'association était bien mais que l'État ne voulait pas ?
Ah bah ouais. Alors moi, pour vous donner un cadre... Donc, j'ai travaillé 10 ans en ONG. Une ONG, donc de solidarité internationale, avec un positionnement politique, qui défendent les migrants, qui défendent le droit des femmes, qui défendent l'agriculture biologique, qui dénoncent les conflits armés comme en Israël-Palestine. Donc, ouais, en fait, en gros, les politiciens ne nous aiment pas, quoi. Du tout. Donc, en fait, tu sais que tu vas rencontrer des gens qui vont pas être contents. J'ai beaucoup travaillé sur l'évasion fiscale. Bon, bah, autant dire que les gens sont pas prêts à dire « Ah oui, tiens, si on faisait une réforme fiscale internationale ?» Non, ça ne marche pas. Donc oui, principalement, moi, les structures qui sont engagées sont confrontées à des blocages où, bah, typiquement, le truc qui fâche, c'est le droit des migrants. Quand tu arrives en disant que tu viens accompagner des structures qui veulent mettre en place l'accueil des migrants en France, vous imaginez dans le contexte actuel que c'est pas simple, les gens vont dire « Non, mais pourquoi ?» et comment ça se fait ? Bah parce que voilà, ce migrant qui a fait la route depuis son pays, alors qu'on a tué sa femme et ses enfants, demande l'asile. Et que quand on le dit comme ça, on aurait tendance à dire « Mais pourquoi ne pas l'accueillir quand même ? Ce monsieur s'est fait buter toute sa famille. » Et ben là, en fait, c'est pas si simple. Et c'est un vrai travail d'avoir le self-control naturel pour ne pas, et je le dis gentiment, insulter certaines personnes qui sont en face de vous en disant « Vous vous rendez compte de l'inhumanité que vous avez et que c'est facile de se cacher derrière des cadres étatiques. » On revient sur un truc systémique. C'est systémique, voilà, c'est de la faute. C'est pas de la faute du fonctionnaire ou de l'élu qui est en face de moi.
C'est le règlement.
Voilà, c'est comme ça. Et voilà. C'est fatigant.
On va passer à la musique, bah ouais. Deuxième musique choisie par
Alors Pascal. Justement, bah, c'est bien, c'est une bonne transition. C'est un peu ma pépite du moment, c'est un DJ qui s'appelle Dombrance, qui fait de l'électro, que je trouve très bon parce qu'il a un petit électro bien léché, très musical. Et ce gars, toutes ses mix, il mixe avec des noms d'hommes et de femmes politiques. Et en fait, les paroles, c'est que les noms. Alors, dans le contexte actuel, j'ai choisi la chanson qui s'appelle Bérou. Écoutons Bérou sur un axe un petit peu électro, c'est décalé, c'est marrant, j'aime bien.
J'ai beaucoup aimé le texte.
C'est pas mal, hein. Ah, oui, hein. C'est recherché, hein, c'est tout.
Alors, c'est le moment de parler de ton parcours, de tes études, ce qui t'a mené donc à ta profession.
Ok, alors, moi j'ai une double licence de sociologie et de sciences politiques et un master de sociologie, une maîtrise de sociologie, exactement, parce que j'étais vraiment... Moi je suis arrivé au milieu de la réforme LMD, comme on disait. Je ne sais même plus ce que c'est. Bah, si, LMD, licence, master, doctorat. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, il y avait un DUG, machin. Bon. Donc, en gros, j'ai un bac plus 4. Mais ce n'est pas trop ça qui m'a permis d'avoir du boulot. Je le disais vite fait avant, là, la pause musicale. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de centres de loisirs. Et c'est vraiment l'aspect éducatif qui m'a fait arriver en ONG. On va dire que je pense que j'ai plus des compétences d'expérience concrètes que des compétences académiques, même si la sociologie m'a permis d'avoir de la méthode, savoir comment analyser, notamment tout ce qui est la rédaction, rédiger, ça m'a permis de me donner ces méthodes-là, et ça m'accompagne encore aujourd'hui sur comment formaliser certaines choses, comment aller récupérer l'information, c'est important. Donc voilà, mes études, c'est un peu ça. Et après, voilà, j'ai fait des ricochets d'associations, de mercato associatif à mercato associatif, pour passer d'une petite asso à une plus grosse, partir à l'étranger pendant 2 ans pour bosser dans une ONG locale en Amérique latine, revenir en France. Après, je vous ai dit, il y a eu la ressourcerie. Et puis après, j'arrive à Digne-les-Bains, où... Ma première année, j'ai bossé pour P2A, donc l'agglomération ici locale, à la politique de la ville. Donc j'ai été fonctionnaire contractuel pendant 1 an. Et après, je suis parti pour travailler pour les potes of the top et pour récupérer plutôt des postes associatifs. Et j'ai eu le plaisir d'y travailler pendant 2 ans. Super projet, génial, vraiment super. Fatigant. On va dire que émotionnellement, il m'a usé celui-là. Mais même si c'était super, et puis je suis encore investi dans ce projet parce que j'y crois à fond et que c'est vraiment génial. Et puis,
tu as acheté ta part ?
Oui, j'ai acheté ma part. J'ai acheté ma part. J'en profite pour dire qu'il y a l'Assemblée Générale des Sociétaires de la SIC du Top lundi. Donc voilà, tous les sociétaires sont invités à venir. Et puis s'il y a des gens qui veulent quand même y venir, même s'ils ne sont pas sociétaires, il y aura des choses. Donc, vous êtes les bienvenus. Et puis voilà, puis on est arrivé aujourd'hui, je vous dis, à être plus sur des trucs plus perso où on ne sait jamais. Peut-être que si la conférence théâtralisée, elle fonctionne bien, si je pouvais faire que ça, je pense que je serais content. Au-delà du sujet, c'est un format qui me plaît, qui m'intéresse. Et c'est un vrai sujet contemporain, j'insiste un peu dessus parce que c'est un... Il y a plein de vulgarisations d'outils sur la question de l'égalité femmes-hommes. Tant mieux. Il se passe des choses, tant mieux. Mais il y a des cadres qui sont encore difficiles à décloisonner. Moi, mon parti pris, c'était de dire de créer un format qui va permettre de questionner ces questions-là, notamment pour les hommes, et fait par un homme, en espérant que juste cette posture-là vulgarise un peu le sujet et qu'il y ait certains hommes qui se disent « Ok, je me sens plus prêt à aller écouter un homme parler de ça ». C'est dans le même esprit que des ateliers de non-mixité où des fois, il y a des gens qui se sentent de venir écouter des choses parce qu'ils se sentent proches des personnes qui le font. Voilà, c'est mon intuition, on va dire. Elle est peut-être mauvaise, hein, mais c'est la mienne.
Tu parlais de la ressourcerie tout à l'heure. Aaron, tu sais ce que c'est ? La ressourcerie ?
Pas vraiment, je ne sais pas du tout.
Alors, vous voulez que j'explique ?
Oui.
Alors, une ressourcerie, c'est dans le cadre de l'économie circulaire. Pourquoi circulaire ? Parce que, en gros, l'idée, c'est de travailler sur les déchets. Donc, on jette plein de choses, hein. Tout le temps, tous les jours. La question, c'est est-ce qu'on les jette, on les met dans une benne, et après, on creuse un trou, on les fout au fond du trou, et puis, comme ça, nos arrière-petits-enfants, ils vont les redécouvrir dans 100 ans, ils seront bien contents de gérer des machines à laver qui ont été enfouies. Donc l'économie circulaire fait en sorte de les réinvestir. Et là-dedans, il y a un outil qui s'appelle des ressourceries qui viennent récupérer directement des choses qui devraient être jetées, mais difficilement valorisables. Des jouets, des disques, tout ce qui est du mobilier, des armoires, des casseroles et tout ça. Et l'idée, c'est de soit de les réparer, soit de les revendre directement pour que ça soit réinjecté dans le circuit économique. C'est pour ça que l'économie est dite circulaire, ça tourne quoi. Donc, on connaît des ressourceries souvent pour les fringues. Il y en a une à Digne, qui est plus généraliste, qui s'appelle l'atelier partagé. Il faut y aller, hein, c'est trop bien. Moi, j'y vais avec mes enfants. Ça éduque sur la question des déchets, pourquoi on jette autant de choses et tout ça. C'est un vrai gros sujet. Hein. Le déchet, quand même, c'est un... Donc voilà, et moi, donc, la ressourcerie sur laquelle je bossais, c'était spécialisée dans le bois. Donc nous, on récupérait des matériaux qui sont en bois et on les retravaillait pour faire des meubles avec. Voilà.
C'est du recyclage.
C'est pas du recyclage, c'est du réemploi.
Réemploi.
Le recyclage, il est industriel, c'est-à-dire que il y a quelque chose de très politique, c'est que le recyclage. Alors, c'est mon point de vue. Hein, mm-hmm. Le recyclage ne remet pas du tout en cause les modes de production. C'est pas grave, on peut continuer à faire du plastique. De toute façon, on s'en fout. Derrière, on va le recycler. Mm-hmm. Donc, ça vient pas agir à la source. Donc, on va continuer à prendre du pétrole pour faire ces bouteilles en plastique et ça pose de problème à personne. On recycle. Mais donc, pour moi, c'est un espèce de petit vernis vert qu'on met sur un mode de consommation qui devrait être mis en question. Parce qu'en fait, si on remet en place des consignes en verre, eh ben, on va casser tout un business et puis on va dire qu'économiquement, c'est pas bien, alors qu'on sait que pour la planète, c'est beaucoup mieux. Ça, c'est du recyclage. Mmh. Le réemploi, justement, c'est je prends quelque chose, je le réutilise directement ou je fais, si on prend des termes anglais, de l'upcycling. Donc, je le remodifie un petit peu pour faire quelque chose. Exemple, je bossais avec une asso sur Paris qui faisait des pnoufs.
Qu'est-ce que c'est ?
Un pnouf, c'est un pneu qui a été réadapté en pouf.
Ah oui.
Et donc, ils ont créé le pnouf, en fait. Et donc, c'est vraiment du mobilier. Les gens peuvent considérer que c'est joli. Alors, c'est fait souvent avec des tissus très colorés, comme de la wax et tout ça. Et en fait, on peut s'asseoir sur son pnouf, mais ce que ça a permis, c'est d'éviter de jeter un pneu, quoi. Mm. Qui est très, très... Qui est très
mais polluant. C'est quand même vachement dur, un pneu... Ouais, mais on s'assoit, au niveau confort, le coussin, on rajoute du coussin.
Le ouais. coussin, évidemment, est au milieu de l'espace vide laissé par le pneu. Ah. Le pnouf. Mais,
voilà. C'est génial. Mm. Merci.
Ouais. Il y a plein de trucs comme ça. Hein. C'est un vaste sujet, très intéressant.
Alors, on va passer au portrait chinois, puisque ça permet de...
Mais qu'est-ce que c'est ?
Le portrait chinois, alors, la consigne, c'est... on pose une question du type « si vous étiez » ou « si tu étais » et tu réponds du tac au tac, pas de commentaires de notre part, peut-être juste des besoins de précision si nécessaire.
Okay.
Voilà, donc on passe à ce portrait chinois. Pascal, tu es prêt ?
Je suis prêt.
Si tu étais un pays ?
Oh ! Si j'étais un pays ? Oui. Ah là, j'avoue que tu me poses une colle. Eh ben, je vais choisir la France. Voilà. Parce que je suis français, en fait, et que je suis... ça ne se voit pas, mais les gens qui m'ont pas vu en photo de sa femme. Je suis noir et je suis d'origine mauricienne de l'île Maurice. Mes deux parents sont mauriciens, mais je suis né en France et mes parents étaient naturalisés un an avant ma naissance. Tu vois, je déborde la consigne, j'explique, là, c'est pas grave,
ouais,
je fais plein
c'est
de commentaires,
bien,
tant
bien.
Pis. Et en gros, je prends la France parce que voilà, moi je suis un Français noir. Souvent, on me pose la question, mais d'où tu viens ? Et donc, souvent, je m'amuse en disant, je viens d'Aubervilliers, donc dans le 93. Même si je sais que la question derrière, c'est, mais pourquoi es-tu noir ? Et de quelle origine exotique es-tu ? Donc, ouais, je choisis la France, même si derrière ça, bah ouais, je suis très attaché à l'île Maurice. C'est le pays de mes parents. C'est mon pays. Je peux aussi, j'aurais très bien pu me présenter comme mauricien. En fait, je suis français et mauricien, et c'est comme ça, et c'est génial. Et j'aime, si des fois je veux être mauricien ou des fois je veux être français, en fait c'est mon problème et je dis ce que je veux, c'est comme ça. Mais j'aurais très bien pu prendre le Brésil aussi parce que c'est quand même un pays qui m'a beaucoup allumé. Donc dur de choisir.
Si tu étais un outil.
Un outil. Waouh. Wow. Si j'étais un outil. Je pense que je serais un calibre à coulisses. Où est-ce que c'est ?
Non.
C'est une espèce de petite réglette qui vient mesurer au millimètre près des côtes. Pourquoi ? Parce que je fais de la menuiserie, moi, j'aime bien construire des petits meubles et j'adore mon calibre à coulisses. Et
d'accord.
C'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et j'aime bien parce que c'est très adaptable, ça mesure des intérieurs, des extérieurs, c'est merveilleux. Et puis c'est beaucoup de maths, donc c'est super.
Aaron a envie de participer.
Excusez-moi. Si t'étais un animal.
Un animal. Je serais, je pense, un paille en queue. Personne ne sait ce que c'est. Hein.
C'est un oiseau.
C'est un oiseau endémique de l'île Maurice. C'est une perruche blanche. Oh. C'est très, très joli. Et ça niche dans les montagnes, ça adore la mer. Et comme j'aime bien la mer et la montagne, ça marche bien.
Si tu étais une épice.
Oh là là, mais c'est vraiment dur. Alors, j'adore cuisiner avec des épices. L'idée, c'est de voir qu'est-ce que je pourrais être comme type d'épice, moi. Je pense que je serais un petit peu pimenté, mais pas trop. Un poivre, quoi. Voilà, je serais du poivre de Madagascar.
Ah, c'est voilà. Pas mal. Ouais. C'est pas mal.
Du poivre à queue.
Si t'étais une couleur, tu serais laquelle ?
Le vert, parce que c'est ma couleur préférée. C'est tout, je pense.
Si tu étais un super-héros ?
Ah bah je serais Black Panther, obligé. J'adore. Non, Black Panther à fond. Faut savoir que quand ils ont créé ce comics, c'était vraiment aussi un moment où il fallait des super-héros qui permettaient aux Afro-Américains de s'identifier. Donc il y a un tout petit truc politique. Et puis bon, Black Panther c'est quand même assez directement lié au mouvement des Black Panthers, hein, d'émancipation des Afro-Américains aux États-Unis. Donc ouais, et puis c'est le plus fort. C'est plus fort.
Et un super méchant.
Si j'étais un super méchant.
Ouais.
Si j'étais un super méchant. Oh waouh, ça c'est une vraie question. Mais genre, qui existe ou qui n'existe pas ?
Ah bah qui n'existe pas peut-être.
Ah qui n'existe pas. Qui existe pas. Alors, si je serais un super méchant qui existe, je serais un. Ah oui, si je sais, mais bon, je me rappelle plus de son nom. C'est le maître de, enfin l'anti-maître de Ken et Ryu dans Street Fighter 2. Ouais, c'est un jeu vidéo. Et ils ont un anti-maître qui est devenu hyper méchant, mais qu'est-ce qu'il est fort, quoi. Il m'impressionne. Je sais plus comment il s'appelle.
Allez, on va passer au. Si tu étais un ministre, de quel ministère ?
Alors, enfin, je sais que je peux inventer.
Oui.
J'invente pas. Je serais ministre de la Culture.
Ah ben voilà.
Ok. Mais avec un agenda bien précis sur l'éducation populaire. Je fais une aparté. Quand le ministère de la Culture a été créé dans les années 60, il y avait deux voies qui pouvaient être prises. C'était soit une culture autour des œuvres et des arts, soit une culture qui allait promouvoir les gens. On a plutôt pris la culture autour des œuvres et des arts. Et en gros, il y avait tout un penchant autour de l'éducation populaire qui aurait pu être pris. Ben moi, je reprendrai cet agenda et je ferai un ministre de la Culture pour aller promouvoir la culture dans les territoires, notamment les territoires reculés, en zone rurale, en périphérie urbaine et tout ça. Voilà.
Si tu étais une époque, tu serais quelle époque ?
La Renaissance, je trouve ça incroyable. Ça allait pas être facile, mais je pense qu'en effervescence, j'ai trouvé ça toujours dingue.
Merci. Est-ce que tu veux, on va jusqu'au bout, une forme géométrique hein ?
Eh bien, je serai un hexagone.
Eh bien, voilà.
Ouais, je serai un hexagone. Je suis tellement heureux d'être français, pour de vrai en plus. Donc, ouais, je serai un hexagone, je pense.
Eh bien, voilà. Merci pour ce portrait chinois. Mais,
merci à toi, avec plaisir. Merci à Ron.
Merci à Ron pour ces questions. On passe à la virgule.
Allez.
Et on passe à l'agenda.
Ah bah oui, alors j'ai des choses à vous proposer, évidemment. Alors déjà le 25 janvier, à la salle Perchaud, il y a l'association La Chamade qui oui. fait l'Ammonite. Donc moi j'y serai, j'aime beaucoup cette association, pas parce que j'y ai des amis, mais parce que je trouve qu'ils proposent des trucs vraiment très chouettes sur le territoire. Et puis là en fait le thème en plus il y aura un spectacle autour de la virilité mais sur un truc de beaucoup plus artistique donc j'y suis intéressé particulièrement parce que justement bah, deux semaines après le 7 j'ai l'impression que c'était une émission auto-promo conférence gesticulée le 7 donc je le redis voilà je joue la conférence théâtralisée l'imposture du mal alpha au centre culturel René Char si vous voulez réserver des places en fait il faut m'appeler directement. Donc, on pourra mettre
mon téléphone
ouais. Voilà. Mais je le donne, allez, hein. 06 allez. 38 27 66 87.
Répète.
06 38 27 66 87. Ou vous pouvez envoyer un mail à Pascal Antonio, A-N-T-O-N-I-O, point lespectacle, @gmail.com. Parce que j'ai dû me trouver un petit nom de scène, on l'a conseillé. Donc, je ne suis pas Pascal Jeanne, je suis Pascal Antonio, parce que Antonio, c'est le nom de jeune fille de ma mère, en fait. Et que justement, c'est un tout petit parti pris en disant comment ça se fait que la filiation devrait être tout le temps par le père. Bah tiens, bah, j'ai décidé, moi, que j'allais m'appeler comme ma mère. voilà, sur ce spectacle. Et voilà, ça commence à 20h30, ça dure une heure, ça coûte 5 balles. L'idée, franchement, j'espère, c'est de passer un bon moment. Mais et après, c'est d'inviter les gens, les hommes comme les femmes, les plus jeunes comme les moins jeunes, à venir vraiment discuter de ce sujet-là. C'est plutôt à partir de 14 ans. Et voilà, on va parler de plein de trucs. On va beaucoup parler, je spoil un peu, mais c'est vachement axé sur relations amoureuses, affectives et sexuelles aussi, quand même, en fait.
Tu dis on va beaucoup parler, c'est-à-dire tu échanges directement avec le public ?
De temps en temps, un petit peu. Mais oui, il y aura de l'interaction. Là, je ne peux pas trop en dire parce que sinon, je vais dévoiler ma vie d'enseigne, mais il y a quelques interactions, oui.
Donc, le 7 février, ça tombe un quel jour ?
C'est un vendredi. Le vendredi 7 février. C'est le vendredi des vacances scolaires. Et voilà. Et j'espère vraiment que vous y verrez nombreux.
La salle sera remplie.
Ce serait cool. Ce serait vraiment chouette. Je commence à avoir un peu la pression, mais ce serait cool qu'il y ait du monde.
Est-ce que c'est dans le cadre du off ?
C'est dans le cadre du off du centre culturel. Et j'en profite pour remercier vraiment sincèrement la ville de Digne et le service culturel de Digne. Eric, Didier, toutes les personnes là qui nous accompagnent. Émilie, merci parce que là, ils me permettent, moi, d'avoir accès à un espace. C'est vraiment super. C'est un appui que je trouve incroyable. Et vraiment, je les remercie sincèrement de me permettre d'avoir accès à cette scène pour faire ma sortie de conférence, sortie de résidence à Digne-les-Bains avec des équipements, de la lumière, de la musique. Voilà. Je vous ai dit, je ne suis pas comédien, je vais avoir la chance de peut-être me sentir un tout petit peu comédien pendant une heure. Parce que après, le but, c'est plus de la jouer, je vous ai dit, dans des lycées, dans des MJC, dans le milieu de l'entreprise et tout, donc pas sur scène. Je la joue aussi beaucoup chez l'habitant. Donc chez des gens. Et là, voilà, c'est une scène. Donc merci la ville de Digne-les-Bains. Vraiment.
Pascal, ça va être le temps de nous quitter.
Oui.
Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de rajouter qu'on n'a pas mentionné ?
Je pense que je suis à. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Si. On est dans une période quand même que je trouve compliquée, politiquement parlant. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup alimenté. Et en fait, ça fait franchement depuis 6 mois que j'écoute plus rien. Ça me prend tellement la tête. Et j'essaie de m'y remettre un petit peu. J'espère, et c'est pour ça que je fais aussi ce type de format. Moi, j'invite les gens à continuer à discuter entre eux. On vit vraiment des moments qui sont compliqués, mais qui peuvent être aussi intéressants. On est dans un moment, je pense, on peut basculer à gauche ou à droite. Donc chacun choisira son côté, mais il faut vraiment, vraiment qu'on discute. C'est pas possible qu'on puisse continuer à avoir un gouvernement comme ça. Ça me rend fou, en fait. Il y a des choses qui se passent et c'est hyper compliqué. Je finis sur des trucs lourds, désolé, mais c'est ce qui me vient en tête. Là, on arrive à peut-être avoir un tout petit dénouement en Israël et tout ça. Il y a quand même des sujets qui sont hyper graves. Il faut qu'on en discute, quoi. Et il faut arrêter. Enfin, déjà, vraiment en discuter, créer du débat. Et on a le droit de ne pas être d'accord, quoi. C'est pas un problème. Par contre, on se respecte quand on parle, quoi. Mais arrêter d'avoir peur de ne pas se dire les choses. Moi, je suis très content d'habiter à Digne-les-Bains. Je trouve que c'est une ville, justement, où on peut avoir ces espaces-là. Et j'espère qu'on va les avoir de plus en plus.
Et la chance d'avoir une radio libre à Digne-les-Bains.
Parlons-en, non, mais c'est vrai, hein. Et puis j'en profite aussi, là je suis hyper content de faire cette émission, donc merci à toi Odile, merci à toute la radio. Les radios libres, c'est une chance incroyable. Quand je dis que j'adore la France, voilà, mais c'est pour ça, quoi. Enfin, c'est quand même unique. Il y a des choses qu'on a ici, qu'il y a des pays qui n'ont pas la chance d'avoir. Donc pourquoi je me considère français à fond et que j'adore ce pays, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir voyager et de voir plein d'autres contextes, et j'ai vraiment la sensation qu'on vit dans l'un des meilleurs pays du monde, et je le dis vraiment. Voilà, je sais pas, moi, la sécurité sociale, par exemple, dans plein de pays, je vous assure, c'est de la science-fiction, quoi. Et je vous parle pas de l'Ouganda, hein. Aller aux États-Unis parler de la sécurité sociale, c'est quand même une chose, mais par contre on est vraiment sur quelque chose où des fois on a tendance à venir les critiquer, et qu'on a plein d'acquis, notamment prenons le cas des radios libres, où ça fait des années que ça existe, hein. C'est 83, c'est François Mitterrand.
Oui, 81, même presque.
81, oui, pardon. Ouais. Donc voilà, ça existe, et puis on vient rogner à chaque fois, en ce moment on n'arrête pas de rogner sur toutes nos initiatives, et c'est pas facile. Et franchement, enfin, disons-le, c'est ça qui tient le pays. Hein. C'est pas l'accord entre le MEDEF et je sais pas quoi qui tient le pays. C'est les radios libres, c'est les centres de loisirs, c'est les associations de territoire, c'est les coopératives d'agriculteurs. C'est ça qui tient le pays. Hein. Mmh. C'est les infirmières, c'est les profs, c'est les flics. Voilà, ça tient le pays. Et ça, c'est important. Donc, on a la chance d'avoir ça. Donc, j'espère qu'on aura longtemps la chance de pouvoir avoir des radios libres comme Fréquence Mistral, parce que c'est juste génial de pouvoir permettre à qui le souhaite de venir proposer des émissions ou d'inviter les personnes qu'elles souhaitent pour pouvoir discuter avec eux là dans cette émission de SS, mais de plein d'autres choses, de musique, de tout ça. Donc, parce qu'on a envie d'avoir des vies sympas où on s'amuse, quoi, c'est tout.
Merci Pascal.
Merci
on
à
parle
toi,
de ta dernière musique choisie.
Ah, oui. Dernière musique choisie, alors c'est une double référence. Donc c'est Jackpot 2000 du 113 avec le grand monsieur qui est derrière, monsieur DJ Mehdi. Il y a eu un docu qui est sorti sur lui il n'y a pas très très longtemps, il y a moins de 6 mois. C'est génial, ce mec, il a fait le pont entre le hip-hop et l'électro. Et justement, il est parti rejoindre des populations qui n'étaient pas censées se connaître. En gros, des carrières de cité et des fils à papa qui écoutent de l'électro, qui n'étaient pas censés s'aimer. Il a réussi à faire ça. Et donc, Jackpot 2000, c'est un gros tube. Et moi, c'est une référence un peu à mes origines territoriales de la région parisienne, de la banlieue parisienne. Et Jackpot 2000, c'est des gens qui partent en soirée pour faire la fête. Et ça me correspond bien, donc, c'est un petit clin d'œil à Paris et sa banlieue.
Merci, on va l'écouter. Et juste avant, donc, je remercie Tiffany pour la régie, Aaron pour sa participation, toi Pascal.
Merci
et puis
toi,
on peut déjà donner rendez-vous le mois prochain pour une autre
prochain.
Émission La Fesse, la fabrique de l'économie sociale et solidaire, où tu reprendras ton rôle d'animateur et
c'est
de
ça.
Réalisateur d'émission.
Très bien, merci Odile.
Merci, au revoir.
Je me fais tout petit pour pas que les videurs me tricardent. À l'entrée ça refoule, on accepte pas les fêtards. Accompagné, faut l'être si tu veux danser. Le physio qui est à la porte ne parle pas un mot français. 2m10, un clando, un bon morceau. Mais ce soir c'est sûr qu'aura de bons morceaux. Dans les poches, plein de bifton, de quoi m'amuser. Prendre la bouteille et t'aller sur un canapé.
Reste enroulé autour du bras, tout le monde est sur la piste. Petit pas synchronisé qu'on a répété à vis. Dans les mécomplices, sur la même longueur d'onde. J'ai déjà choisi ma go, pour mon pote j'ai repéré. Y'a du monde dans la salle, les trois quarts en Lacoste. Le DJ a ses platines, sa mixette et son vieux poste. Et son vieux poste, c'est nos bons délires, on les a pas oubliés. Les bonnes soirées, y'en a pas des, y'en a pas des milliers.
Entre Jackpot, on donne ça à l'ancien comme au bon vieux temps. Pour nos potes et ceux qui traînent avec nous. Si tu te rappelles du ghetto. Jackpot,
j'ouvre mon armoire, j'prends une chemise même pas repassée. Je regarde dans ma glace et je me dis c'est déclassé. À cette heure-ci à l'entrée ça doit se passer.
Calmez-vous.
Alors je rase ma barbe de 2 semaines, je suis pas pressé. Ça devrait se passer même si j'ai les yeux cassés. Et même si je suis avec 8-9 disjonctés. On cache nos armes dans le buisson. Ma gueule se marie bien avec le son. Hey garçon, c'est pour moi la danse.
Comme des tarés, je suis essoufflé. Hey. Pour rafraîchir, je vais au bar. Consommer, hey. À tout est son comptoir, les lunettes quartier baissées. Hey. Je remarque que tous mes potes venaient juste d'arriver. Et là, je lève mon verre de coca, je picole pas. Je porte un toast à tous mes frères d'Africa. Et c'est comme ça, vu l'ambiance, fallait du grand pour stopper la sono. On rentrera à la cité à l'heure du premier métro.
Entre Jackpot, on donne ça à l'ancien comme au bon vieux temps. Pour nos potes et ceux qui traînent avec nous. Si tu te rappelles du ghetto. Jackpot.
Je suis dans
dans l'arrière-salle du côté official, toujours au top optimal avec mon petit verre de Sky, okay. Et me laisse aller sur un son de George Benson. Les stromboscopes font briller mes Jean-Marie Weston. À l'ancienne, je fais un petit tour sur moi-même. Dans la foulée, repère une jolie demoiselle. Toutes les femmes ce soir se sont fait belles. Sans aucun doute, je mets mon petit grain de sel. N'abuse pas sur la boisson, je t'en prie, fais pas le con. Eh, baisse d'un ton, j'ai un kit à faire. Tonton, je suis avec Jano, mon Jack, c'est un poteau. Ce soir, c'est relax, je suis avec mes Jack Poto.
Si c'est Timal, je suis avec AP dans l'arrière-salle. Montez tous dans le golf et dans 5 minutes, on remballe. Et t'es calme.
Ce soir, c'est le festival. En 2000, on met ça légal, c'est la totale.
Entre Jack, on donne ça à l'ancienne, comme au bon vieux temps. Pour nos potes.